Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. Il est 8h30 ici à Paris, 7h30 à Kinshasa et à Libreville.
Xavier Besson.
Bonjour à tous. À la une de l'actualité africaine ce matin, la République démocratique du Congo et les questions soulevées par l'annonce du retour de Joseph Kabila, l'ancien président qui compte rentrer au pays par l'Est et que l'on comprend mécontent de la gestion de son successeur Félix Tshisekedi. Dans ce journal également, le Rwanda qui demande à l'école belge de Kigali d'arrêter d'appliquer le programme scolaire belge. Le Gabon, vous entendrez la représentante du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, à deux jours de l'élection présidentielle gabonaise. Et on se penchera sur le cas du footballeur angolais Afimiko Pululu, qui brille en ce moment en Pologne et qui se verrait bien, pourquoi pas, jouer avec les Léopards de RDC. Quel rôle pour Joseph Kabila en République démocratique du Congo? On se pose la question alors que l'ancien président, après environ un an d'exil volontaire, annonce son intention de rentrer au pays. D'après ses proches, c'est par l'est du pays qu'il compte revenir. Et des proches qui n'excluent pas non plus une participation aux activités de l'AFC M23, ce groupe armé qui contrôle de larges pans des provinces du nord et du sud Kivu dans l'est congolais. Joseph Kabila, en tout cas, n'en a rien dit dans sa déclaration écrite en début de semaine. Et pour le chercheur Bob Kabamba, docteur en sciences politiques de l'Université de Liège en Belgique, il y a une place pour l'ancien président dans l'opposition politique à Félix Tshisekedi.
Il y a deux pôles qui essayent d'exister, notamment le pôle qui est dirigé par le régime à Kinshasa, et puis on a l'espace qui est occupé par l'AFC M23 qui est l'espace militaire, et il manque opposition politique non armée. Et cet espace qui est un espace vide, l'impression que ça donne est que ce retour va vouloir essayer de restructurer cet espace politique pour que Kabila puisse en prendre le lead avec d'autres opposants qui pourraient se réunir derrière lui. Donc ce retour peut être analysé véritablement comme une volonté de sa part de pouvoir occuper cet espace de l'opposition politique, puisque les deux autres espaces sont déjà occupés. Alors, si le rapprochement entre l'AFC et Kabila se confirmer, cela va avoir une nouvelle dynamique qui va s'impulser en RDC, et cela mettrait en danger le régime de Tshisekedi. Je vois mal comment le lien entre l'AFC et Kabila, comment Tshisekedi pourrait résister à ce front, et ce front qui pourrait s'étendre non seulement dans toute la partie orientale, mais qui pourrait concerner aussi même l'espace kasaïen, même l'espace de l'Ouest, qui pourrait être déstabilisé et ça rendrait véritablement le règne de Tshisekedi difficilement envisageable.
Le chercheur Bob Kabamba, joint par Patient Ligodi. Joseph Kabila donc, qui justifie son retour au pays par la situation sécuritaire et institutionnelle de la RDC. Comprendre qu'il se dit mécontent de la gestion du pays par Félix Tshisekedi, en particulier de la situation dans l'Est. Alors qu'en ce moment, des discussions ont repris à Doha sous l'égide du Qatar, échange entre le gouvernement congolais et les représentants de l'AFC M20. Deuxième session en fait de discussion après celle de la semaine dernière, mais officiellement aucune communication à Kinshasa. Pauline Azidi.
La méthode Qatar, c'est la discrétion et ce second round de discussion ne déroge pas à la règle. Comme pour la première session, il y a une dizaine de jours, impossible de savoir quand les discussions ont véritablement commencé et quel est le format adopté par la médiation qatarienne. Pas beaucoup d'informations non plus sur le niveau des délégations. Selon nos sources, l'AFC M23 serait représentée par de hauts responsables, alors que du côté de Kinshasa, il s'agit une nouvelle fois d'experts et de technocrates. Les deux délégations sont bien arrivées à Doha, les travaux préalables aux discussions directes ont commencé, mais les échanges entre les deux camps n'ont pas encore repris. On sait que lors de la première session, il y a eu au moins une réunion commune où les représentants du pouvoir congolais et ceux de l'AFC M23 se sont retrouvés autour de la table sans aboutir à un résultat concret. En effet, si les deux camps ont déposé leur préalable, c'est à ce niveau qu'il y a un blocage. Impossible d'aller plus loin sans arriver à aligner les positions. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
À Kinshasa, où d'après le ministère de l'Intérieur, cité par Radio Okapi, le bilan des inondations du week-end dernier s'établit désormais à 43 morts et l'on approche des 3000 sinistrés hébergés dans des sites d'accueil. On y reviendra après ce journal avec notre invité, l'urbaniste congolais Guilin Amani. Avant cela, on s'intéresse maintenant à cette décision du Rwanda. Kigali soutient des rebelles du M23 dans l'Est congolais et en froid avec la Belgique depuis que Bruxelles est en pointe pour demander des sanctions contre les autorités rwandaises. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues et désormais, le ministère de l'Éducation demande à l'école belge de Kigali de ne plus suivre le programme scolaire belge et cela à partir de la rentrée prochaine. Correspondance de Lucie Mouilloux.
La lettre est adressée au président du comité des parents d'élèves et à la direction de l'école belge de Kigali. Suivant la rupture diplomatique entre le Rwanda et la Belgique, puis la directive du 27 mars interdisant aux organisations basées dans le pays toute forme de collaboration avec le gouvernement de Bruxelles et ses institutions, l'établissement qui délivre des diplômes belges doit donc changer son programme dès la rentrée de septembre 2025. Le ministère de l'Éducation reste à votre disposition pour vous soutenir pendant cette période de transition, peut-on lire dans le document. L'école belge, ouverte en 1965 et opérant sous un statut légal d'ONG de droit rwandais, est l'une des plus anciennes institutions scolaires internationales du pays. Ce n'est pas la première fois que des tensions diplomatiques impactent les centres d'enseignement. En 2006, la rupture des relations entre Paris et Kigali entraînait la fermeture de l'école française Antoine de Saint-Exupéry, rouverte 4 ans plus tard, en 2010. Lucie Mouilloux, Kigali, RFI.
RFI, 7h36 à Libreville, la capitale gabonaise, où ces derniers jours sont arrivées des équipes d'observation de l'Union africaine, de la francophonie ou encore du Commonwealth, dont le Gabon fait partie. Le Gabon qui vote après-demain, élection présidentielle, après le coup d'état du général Oligui en 2023. La société civile locale se mobilise également pour cette élection, en particulier le REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Jeanne-Clarisse Dilaba en est la coordinatrice au Gabon. Elle confirme qu'il y a beaucoup d'attentes sur le déroulement du scrutin, mais que l'on jugera le jour J.
Les mauvaises habitudes ne peuvent pas être gommées par un claquement de doigts. Non, nous pensons que nous sommes en train de passer des étapes cruciales pour notre pays. Voilà, ce que nous avions déjà commencé à regarder, c'est le respect du code électoral. Quand on parle du bureau de vote, c'est qui les électeurs. Nous avions commencé à regarder ça. Nous voyons vraiment une certaine avancée. Donc nous, en tant que réseau des défenseurs des droits humains, nous qui nous appuyons sur les droits, n'est-ce pas, nous allons plutôt observer si les droits des individus sont bel et bien observés. Nous qui défendons des lois, on a des lois qui sont là. C'est l'application de ces lois qui a toujours posé des problèmes. Donc dans le code électoral, ce qui est là, c'est là. Maintenant, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, des droits humains, nous devions veiller à ce que ce qui est dit, mais ce qui est écrit, que ça soit observé, que ça soit appliqué.
Jeanne-Clarisse Dilaba, coordinatrice au Gabon du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Dans l'actualité ce matin également, le Tchad. La détention provisoire d'Olivier Monodji est prolongée. Le directeur de publication du journal Le Pays, arrêté il y a un peu plus d'un mois, mis en cause pour intelligence avec une puissance étrangère. Son avocat assure que sa demande de libération provisoire a été rejetée. Olivier Monodji, qui est également l'un des correspondants de RFI à N'Djamena. Le Tchad, où par ailleurs l'Union européenne annonce une augmentation de sa contribution aux opérations humanitaires. Le Tchad continue de recevoir chaque jour entre 100 et 200 Soudanais et qui fuient la guerre de l'autre côté de la frontière. La guerre au Soudan, justement, il en sera question aujourd'hui à La Haye. La Cour internationale de justice, CIJ, commence à examiner une plainte déposée par Khartoum. Khartoum qui accuse les Émirats Arabes Unis de complicité de génocide pour avoir supposément fourni des armes aux paramilitaires FSR. Florence Maurice.
Selon Khartoum, les crimes commis par les forces de soutien rapide au Darfour n'auraient pas été possibles sans le soutien indirect, je cite, des Émirats Arabes Unis. Un soutien multiforme, appui financier, livraison d'armes, équipement militaire et même, je cite encore, formation de mercenaires. En 2024, des experts de l'ONU ont jugé crédibles les accusations selon lesquelles les Émirats Arabes Unis auraient acheminé des armes aux paramilitaires soudanais via l'aéroport tchadien d'Amjaras. En janvier de cette année, des parlementaires américains ont affirmé que ces livraisons se poursuivaient. Pour Khartoum, les Émiratis auraient ainsi violé la convention de 1948 sur la prévention du crime de génocide. L'un des points discutés ce jeudi lors des audiences à La Haye sera la compétence de la Cour internationale de justice dans ce dossier. Car si les Émiratis sont bien signataires de cette convention de 1948, ils ne reconnaissent pas la compétence de la Cour pour les juger en vertu de ce traité. Pour Khartoum, cette réserve n'a aucune valeur juridique car elle reviendrait à vider de sa substance le traité.
Florence Maurice, les sports maintenant en pleine semaine de Coupe continentale en Europe et en Afrique. En Afrique, on connaît toutes les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions. Qualification hier des Orlando Pirates aux dépens du Mouloudia d'Alger. Affiche de la Coupe de la Confédération également, avec parmi les résultats d'hier l'élimination surprise des tenants du titre, le Zamalek, le club du Caire, sorti par les Sud-Africains de Stellenbosch. En Europe, on en est au quart de finale aller. Aujourd'hui, place à la Ligue Europa et à la Ligue Europa Conférence, avec un œil en particulier sur le match Jagiellonia-Białystok contre Betis Séville. L'attaquant star des Polonais, c'est l'Angolais Afimiko Pululu, meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence. Angolais car né à Luanda, mais de parents congolais, et qui laisse la porte ouverte à une sélection chez les Léopards de RDC. Sofiane Amazian.
C'est un dossier scruté par les supporters congolais. Afimiko Pululu a-t-il fait une croix définitive sur la sélection? Sa réponse.
On va dire je ferme pas la porte dans tous les cas la sélection congolaise.
Appelé par le sélectionneur angolais Pedro Gonçalves le mois dernier, le meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence avec 8 réalisations, a dû déclarer forfait au dernier moment pour une petite déchirure au mollet. Son choix n'est donc pas arrêté, les Léopards dans un coin de sa tête.
Il y aura toujours cette attache-là. J'ai grandi à la congolaise. Quand je vois, par exemple, un ami à moi avec qui j'ai joué, Charles Pickel. Je me dis, ouais, il me fait kiffer le gars. J'aurais peut-être bien aimé être aussi avec lui.
Champion de Pologne en titre, vainqueur de la Supercoupe la semaine dernière avec son club de Białystok, Pululu fait saliver des équipes européennes plus huppées, mais pas de contact direct avec le sélectionneur de la RDC, Sébastien De Sabre.
Ce serait bien d'avoir une discussion avec les gens de la RDC. Si voilà, les gens au pays font une pression et puis que, on va dire, les gens concernés ne se manifestent pas, ben voilà, c'est un peu brouillon, mais si à la fin, les personnes aussi concernées pourra tirer de là une réponse à la fin.
Courtisé, Afimiko Pululu veut prendre son temps et prendre la meilleure décision en accord avec sa famille.
Je me dis ça, c'est pas fait au mois de mars, c'était peut-être pour une raison. Je prendrai vraiment le temps de suivre vraiment ce que mon feeling me dit et puis quand j'ai vraiment fait mon choix, bah, de toute façon je déclarerai.
Réponse attendue avant le mois de juin et un nouveau rassemblement des sélections africaines pour disputer des matchs amicaux.
Sofiane Amazian. Et on termine ce journal en musique au son du balafon, cet instrument de percussion typique d'Afrique de l'Ouest, avec ses calebasses, ses lames de bois et au-delà des mélodies, son rôle culturel, notamment dans la communauté Sénoufo en Côte d'Ivoire. Le balafon star du festival Djegele, reportage de Frédéric Carra.
C'est ainsi que Kone Dodo, le directeur du Djegele Festival, a eu l'idée d'organiser ces rencontres où les artistes viennent des quatre coins de l'Afrique de l'Ouest.
Vous savez, le balafon est un instrument fondamental chez le peuple Sénoufo. À la naissance, nous, on joue du balafon, parce qu'on est content. Au chant, le balafoniste joue pour encourager ceux qui labourent. Parce qu'il y a un dessert, le balafon est présent dans des intonations particulières pour dire que c'est triste et qu'il y a quelqu'un qui part. En fait, le balafon ponctue la vie du peuple Sénoufo, de la naissance à la mort. Donc c'est un instrument important que nous avons voulu magnifier à travers ce festival.
L'une des invitées d'honneur de cette 9e édition, la chanteuse burkinabé Hamza Bari.
Mais avec le festival, on se retrouve et c'est voilà pourquoi on parle de nos ancêtres, de tout ce qui vient de chez nous. La cohésion, le fait d'être ensemble ici et se retrouver, faire la fête ensemble et danser au son du balafon.
Chanter et danser au Djegele Festival, mais aussi transmettre une tradition musicale ancestrale avec des rencontres et débats ponctués de quelques coups de bayoche sur 12 lames de bois. Frédéric Gara, Boundiali, RFI.
Aboundiali, en Côte d'Ivoire, comme en temps universel, il est maintenant 6h44 et vous êtes avec Clotilde Dumais pour la suite d'RFI Matin.